Je suis avec le coach de la team Betclic. Coach, un mot sur le match.
Les joueurs ont validé leur pari, le bon plan du soir est passé.
Eh oui, on vous sent touché là.
Ah, c'est les émotions, oui.
Tu as gagné ton pari sur l'app Betclic et tu veux profiter dès maintenant de ta victoire? Grâce au virement instantané Betclic, reçois tes gains sur ton compte bancaire en à peine quelques minutes. Disponible seulement sur Betclic. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire. Je vous fais le pari qu'il sera rarement même dans les 18.
On m'a des factures des fois. Moi, j'ai jamais des factures parce que j'ai des factures, je prends 19.
Hey, monsieur, le carton, il faut donner le carton.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Les 23h08, l'after est là jusqu'à minuit avec Thibaut Leplat, avec Daniel Riolo. Hier, on a eu un long débat sur le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite. Est-ce que c'est indécent, l'éthique dans le football, tout ça. Mais ce soir, on va parler d'Arabie Saoudite sous un angle différent, sous l'angle géopolitique, avec Jean-Baptiste Guégan qui est là avec nous. Bonsoir Jean-Baptiste. Spécialiste en géopolitique du sport. On parlera de ton futur bouquin dans quelques minutes tout à l'heure. Mais
membre permanent du COMEX, qui est notre podcast que nous faisons avec JB le lundi soir.
Mais c'est pas le vrai COMEX, hein, je précise. Hein.
C'est le COMEX du 11e art, ouais. Voilà. Ouais.
Celui de la Fédé-Foot.
Daniel, il a entendu COMEX, il a failli tomber de sa chaise. Là.
Il dit quoi?
Il dit toi, t'es là-dedans.
c'est un hommage à ce COMEX.
Ouais. Alors, il est intéressant de décrypter ce que veut faire l'Arabie Saoudite dans le foot et d'ailleurs dans le sport en général, parce que c'est vraisemblablement quand même très différent de ce que fait le Qatar. Là, il y a pas, on parle pas de soft power là pour les Saoudiens, Jean-Baptiste, a priori.
Il y en a, mais il y a pas que ça. C'est-à-dire que le premier objectif, c'est de parler à la jeunesse saoudienne. On a plus de 70% de la population saoudienne qui a moins de 35 ans. Sauf que Mohamed Ben Salman, qui est pas encore arrivé au pouvoir, il est prince héritier, il prépare les 40 prochaines années. Dans un régime autoritaire, il vaut mieux préparer l'avenir. Et là, en l'occurrence,
il y a
en donnant...
qui s'appelle Vision 2030.
Alors, il y a le programme Vision 2030. Et dans ce programme, il y a l'idée d'aller offrir, finalement, du divertissement, des loisirs et de la culture à la jeunesse saoudienne.
Ce qui était interdit pour la...
Ce qui permet d'éviter de faire la révolution comme au printemps arabe.
Exactement. Parce que le modèle est là. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'éviter de se faire renverser.
Et c'est une vraie ouverture, alors.
Il y a une vraie ouverture avec aussi une chose très simple. Cette jeunesse, elle a déjà accès à l'extérieur. Et elle a cette demande de loisirs-là. En se mettant finalement la jeunesse de son côté, il s'assure d'abord un contrepoids par rapport à ceux qui voudraient qu'on garde le pays fermé. Et ça peut lui permettre derrière aussi de gouverner plus facilement. C'est déjà un positionnement politique.
Juste là-dessus, il y a un parallèle qui était intéressant, c'est avec le modèle chinois aussi, c'est de dire, on vous donne du mode de vie, on vous donne des moyens, à condition que vous occupez pas de politique.
C'est ça. C'est-à-dire que la démocratie, c'est bien gentil, mais c'est pour les autres. Là, ce qu'on vous propose, c'est des loisirs, du développement, de l'économie. Maintenant, vous nous laissez faire pour le reste. La politique, c'est nous. Le reste, on fera ce qu'il faut.
On vise un despotisme éclairé?
C'est un peu ça. Hein.
Oui, il y a de ça. Il y a de ça. Avec, il faut pas l'oublier, hein, la liberté de la presse, elle n'existe pas. Les droits des femmes, des minorités, ça n'existe pas
non plus. Hein,
voilà. Mais là, t'as d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Tu vois, du point de vue environnemental, l'Arabie Saoudite, c'est l'un des pays qui fait partie des pays les plus pollueurs. Tu prends Aramco par exemple, la compagnie qui gère le pétrole, c'est l'un des trois acteurs les plus polluants du monde. Bon. Ça, il faut aussi nettoyer l'image. Et c'est là aussi où il y a un enjeu justement de soft power. C'est-à-dire que le sport va servir, et le football aussi, à nettoyer l'aventure et à présenter une image attractive, favorable. Et ça va avec un plan de développement justement.
Alors, il y a un truc intéressant sur le foot, c'est que donc on a en Arabie Saoudite des grands stades qui sont pleins.
Il y a une vraie culture, hein, foot.
Voilà, et qu'on a là une jeunesse qui adore le foot. Déjà, c'est pas le championnat du Qatar où en gros les stades sont vides ou le championnat émirien les stades sont vides.
C'est pas la même dimension, c'est pas la même population.
Exactement. Tu regardes la population du Qatar, c'est 3 millions de personnes, mais c'est 300 000 ressortissants qui ont la nationalité. L'Arabie Saoudite, c'est 36 millions de personnes.
Ah oui.
Donc c'est fois 100.
Donc quand ils font venir Benzema ou Cristiano Ronaldo, c'est pas forcément pour claquer ça, claquer ça à la tête du monde. C'est pour les jeunes de chez eux.
Ça fait plaisir aux gens, quoi.
Voilà, parce que on vous offre les meilleurs.
Non,
ça.
Eux, ils kiffent le foot vraiment.
Ouais, tu prends Al-Ittihad, par exemple, le taux de remplissage moyen, c'est plus de 90%. On a 40 000 personnes de moyenne dans le stade, sur la saison.
Les femmes ont le droit d'aller au stade désormais?
Ça, en l'occurrence, c'est pas encore dans le spectre. On n'est pas dans cette logique-là pour l'instant. Là, on reste aussi sur une de ces limites-là. C'est-à-dire que la mixité, c'est pas encore quelque chose qui est complètement.
Les droits des femmes ont grandement évolué en Arabie Saoudite. Alors, on partait évidemment de très très loin, mais en fait, on partait de rien. Puisqu'il y a quand même quelques années où une femme ne pouvait pas se balader dans la rue seule, par exemple. Aujourd'hui, elles peuvent conduire. D'ailleurs, petite idée, si vous voulez vous expatrier, il paraît qu'ouvrir une auto-école en Arabie Saoudite, en ce moment, peut vous rendre riche, hein, parce qu'il y a quand même plusieurs millions de conductrices à former.
Oui, il y a des clients potentiels.
Il y a aussi un mouvement en Arabie Saoudite. J'ai eu un témoignage d'une amie qui connaît très bien la question, puisqu'elle a vécu là-bas tout à l'heure avant l'émission. Il y a de plus en plus de femmes maintenant en Arabie Saoudite qui se baladent dans la rue sans voile. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de liberté comme ça. Nous, on a certains endroits en France où on veut mettre le voile. En Arabie Saoudite, les femmes veulent l'enlever. Enfin, il y a un mouvement de fond. Important aussi. Alors c'est toujours pareil, il faut voir d'où on part.
Faut le relativiser aussi. C'est-à-dire si tu prends par exemple les femmes le fait de conduire, les 5 activistes qui étaient à l'origine de ça, elles sont encore en prison. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement d'ouverture, il y a une volonté aussi de faire de l'Arabie Saoudite un pays plus ouvert vers l'extérieur. C'est la volonté de Mohamed Ben Salman, qui reste un despote. Le projet Neom, par exemple, d'ouverture, c'est ça aussi. C'est pouvoir attirer les talents du monde entier.
C'est une ville futuriste, c'est ça ?
On est au nord-ouest, ça fait la taille de la Bretagne. Et l'idée, c'est de faire une sorte de gigantesque Dubaï où tu pourrais faire tout ce que tu fais à Dubaï, mais en Arabie Saoudite. Une sorte d'endroit où, finalement, tu aurais beaucoup plus de liberté. Voilà. Et ça change vraiment la donne. Il y a cette volonté d'ouverture.
Précision, les femmes sont autorisées à aller au stade en Arabie Saoudite.
Mais dans la pratique, c'est pas aussi... C'est pas
peut-être que c'est plus facile pour des expatriés, par exemple, que pour des Saoudiennes.
Parce qu'il y a aussi l'usage. C'est-à-dire que tu vas pas avoir, comme chez nous, 10 à 20% du stade qui va être composé de femmes. C'est-à-dire qu'on commence à voir progressivement ça arriver, mais c'est pas encore pleinement entré. Et puis ça dépend aussi des endroits en Arabie Saoudite.
Question de Jérôme Thomas. Une nouvelle ville de la taille de la Bretagne, est-ce que l'ambition est de se comparer au Stade Rennais?
Personne ne peut se comparer à
des entreprises françaises et des entreprises françaises qui sont
qui ont tout d'intérêt à ce que ça se développe.
Beaucoup d'intérêt à faire notamment de l'immobilier. Là.
Alors précisons aussi que là on parle de foot, mais il y a d'autres développements. Là, on sait qu'il y a le Paris-Dakar par exemple qui maintenant est en Arabie Saoudite, qui pourrait s'appeler Paris-Riyad peut-être un jour, je sais pas. Mais enfin bon, voilà. Il y a eu aussi une grosse offensive dans le golf, le golf.
Ouais, ils ont préempté le golf.
Il y a eu un incident sur le Dakar qui avait été relativement étouffé, une enquête
relativement étouffée, un peu carrément étouffée.
Qui a eu lieu, c'était quoi l'année dernière ?
Ouais, c'est l'année dernière.
L'année dernière.
Avec une bombe placée sous les cieux et il y a le conducteur qui est là.
On n'est pas quand même dans un contexte.
Tout à fait. Enfin, c'est loin d'être apaisé. Mais enfin, il y a une offensive générale dans le sport, en fait, Jean-Baptiste.
Aujourd'hui, c'est l'un des principaux acteurs en termes d'investissement. Ils ont littéralement préempté le golf. C'est-à-dire que l'initiative qui visait à couper le golf en deux a fonctionné. Et aujourd'hui, à la tête de la plus grande ligue de golf mondiale, on va avoir un Saoudien. C'est l'initiative saoudienne qui a pris le dessus. Ils sont présents dans le cyclisme. Ils sont très présents dans l'e-sport. Ils sont présents en F1. On a un Grand Prix. Ils ont postulé pour en avoir un deuxième. Ils sont présents en Formule E. Ils font du catch. Ils font des combats de boxe. Souvenez-vous de Joshua Ruiz. Ils sont présents aujourd'hui. La Supercoupe espagnole, la Supercoupe d'Italie. Il y a que la Ligue des Talents qui est pas capable de s'expatrier là-bas. C'est peut-être pas une mauvaise chose en même temps.
Et jusqu'où ils veulent aller parce qu'on a l'impression qu'en gros ils nous achètent des trucs. Venez jouer votre finale et tout. Donc à terme, j'en sais rien, moi, un Seferin peut dire on va aller jouer la finale de la Ligue des Champions là-bas.
C'est quelque chose aujourd'hui qui est plus à exclure. Parce que le Qatar aurait très bien pu se porter candidat et qu'à un moment donné, la question se pose. Si c'était aux États-Unis par exemple, et ça a été dans les tuyaux un temps, est-ce que ça poserait un problème? Non. Là, la question, c'est l'ampleur du chèque.
Finale de Ligue des Champions, même aux États-Unis, ça pose quand même un problème.
Oui, évidemment, ça nous en
pose. Jusqu'où ils peuvent aller financièrement? Est-ce que tu as des chiffres sur le foot, par exemple, intéressant?
Là, sur le plan de recrutement, par
exemple. Excuse-moi, c'est terminé le tennis. On va conclure le match avec Julien Taxis. On y va.
Et oui, à l'instant, la victoire de Casper Ruud. Le duel scandinave va tourner en faveur du mieux classé, du plus âgé et de celui qui a été beaucoup plus solide. Ruud, le Norvégien, victoire en 4-7 face à Holger Rune. Je vous donne le score 6-1, 6-2, 3-6, 6-3. Comme l'an dernier, c'était déjà en quart de finale. Et il attend Casper Ruud, désormais Alexander Zverev en demi-finale. Ce sera certainement la première demi vendredi, juste avant le monument que l'on attend tous à Roland-Garros entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.
Donc, Merci, bonne soirée Julien.
Revenons, bonne soirée les amis.
Revenons à notre discussion. Oui, alors, est-ce qu'il y a des éléments financiers que tu as, je sais pas, à nous donner sur l'investissement dans le foot, par exemple, ce qu'ils veulent faire
Si on regarde, par exemple, le plan de recrutement des stars, ils ont budgété jusqu'à 1 milliard de dollars pour les faire venir. Si on regarde les
infos
de
là, il a pris un dixième du budget, là. Ouais. Non, deux dixièmes du budget.
Mais s'il vient pas, il a libéré la moitié du budget, peut-être. Ouais.
Mais ça veut dire qu'il y aura peut-être une offensive sur d'autres joueurs. C'est-à-dire que Neymar, qu'on imagine en partance, peut-être qu'à un moment donné, il fait partie de la liste des joueurs ciblés. Là, on a une offre sur Zaha, par exemple. Il y a d'autres joueurs comme ça qui sont intéressants et qui vont être approchés. Parce qu'une fois que Messi est parti à l'Inter Miami, il faut lui trouver finalement un remplaçant qui ait une visibilité comparable. Il faut s'attendre à ce genre d'offre-là.
Alors, c'est aussi simplement... un pays où il y a un problème avec la pratique du sport. Il y a énormément d'obésité en Arabie Saoudite.
60% des Saoudiens qui sont
contre. Et donc, ça fait aussi partie, je crois, de la stratégie de mettre la population, enfin les jeunes en l'occurrence, au sport.
L'idée, c'est justement d'utiliser le sport comme un facteur qui incite à faire du sport, du foot en l'occurrence. On a vu une montée, par exemple, depuis que Ronaldo est là, du nombre d'inscriptions dans les clubs. Donc il y a un effet, sauf qu'on sait que cet effet il dure pas. Donc il faut alimenter avec des stars, il faut qu'il y ait les résultats. Et l'idée c'est que derrière...
Il va rester Ronaldo ? Les rumeurs faisaient état déjà d'un ennui de sa part.
Alors ennui c'est possible avec le contrat qu'il a, je pense qu'il prendra sur lui pendant encore un an et après on verra. Mais ce qui est intéressant avec ça c'est que leur politique est vraiment pensée. C'est-à-dire que c'est la même politique que le Qatar avec d'autres objectifs. Tout est pensé, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de politique intérieure, une dimension qui concerne l'extérieur, c'est-à-dire la vitrine, et puis derrière, il y a une vraie logique sanitaire qui consiste à faire du sport pour éviter d'avoir à payer les dépenses de santé derrière.
On voit combien le plus que le football, alors on parle souvent du football comme un outil politique, il a toujours été dans l'histoire, ça a toujours été une manière d'exprimer les rapports de force politique. On voit aussi c'est valable aussi pour les démocraties, et que le footballeur, pour le coup, lui, est vraiment plutôt l'allié de ce genre d'initiative, plus que le football lui-même, qui se peut pratiquer de manière universelle. Le footballeur lui-même, est vraiment la cible de ce genre d'initiative et de régime aussi, parce qu'il faut quand même appeler un chat, quoi. C'est quand même une monarchie autoritaire. C'est quand même une grande opération de nettoyage de vitrines aussi.
Et puis aujourd'hui, ce sont des fonctionnaires d'État. C'est-à-dire que, entre guillemets, la formule n'est pas de moi, elle est d'Abdelabouma, mais on est sur des mercenaires qui vont travailler littéralement, contractuellement, pour Mohamed Ben Salman, via l'autorité qui les a recrutés.
Tu parlais des joueurs de foot, là?
Ouais. C'est-à-dire que quand on voit.
Il paraît que le gouvernement a racheté les clubs parce qu'avant ils appartenaient à des gens et c'était totalement corrompu.
Alors, c'est peut-être de la corruption, mais en tout cas.
C'est un nettoyage, voilà. En tout cas, qui a été.
L'idée, c'est de.
Par l'État.
Privatiser pour professionnaliser, c'est-à-dire que là on a le Public Investment Fund, le fonds d'investissement saoudien, qui a racheté 4 clubs, c'est les 4 clubs historiques. On a Aramco qui va en acheter d'autres.
Aramco qui est le bras armé,
pétrolier financier de l'État saoudien. Et leur objectif, il est simple, c'est de cadrer pour permettre le développement de l'activité foot et éviter ce genre de difficultés.
C'est la vieille tradition autoritaire. De toute façon, les régimes autoritaires, ça va toujours beaucoup plus vite, beaucoup plus pratique, forcément. Voilà. Comme il n'y a pas de problème de...
Ah bah oui, il y a moins de débats. Oui,
ça n'a pas besoin de débats, pas besoin de désaccords. Donc forcément, ça va plus vite.
Chez nous, parfois, il y en a trop.
Pause, les gars, et on va continuer la discussion. C'est très intéressant. Et puis, le 32-16 est ouvert. Si vous voulez poser des questions à Jean-Baptiste Guégan dans quelques instants, on comprend bien déjà que la stratégie saoudienne du sport, dans le sport et dans le football en particulier, est totalement différente de celle de ses voisins dans le golf persique. On continue la discussion dans quelques secondes dans l'after, à tout de suite.
Je suis avec le coach de la team Betclic. Coach, un mot sur le match.
Les joueurs ont validé leur pari, le bon plan du soir est passé.
Eh oui, on vous sent touché là.
Ah, c'est les émotions, oui.
Tu as gagné ton pari sur l'app Betclic et tu veux profiter dès maintenant de ta victoire? Grâce au virement instantané Betclic, reçois tes gains sur ton compte bancaire en à peine quelques minutes. Disponible seulement sur Betclic. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC jusqu'à minuit. L'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h24, tout à l'heure on vous racontera comment l'UEFA fait du chantage à la Juventus concernant la Super League, on vous parlera également du rachat de Manchester United, on analysera le résultat de la finale de la Conference League, la victoire de West Ham qui a reçu sa coupe, belle coupe d'ailleurs, la Conference League, très belle coupe, réussie pour une fois.
Beaucoup bien dans ton salon.
beaucoup plus joli.
Les tabourets là, tu sais, les
beaucoup plus joli que le trophée de champion de France dégueulasse là, l'Hexagone. Donc Daniel Riolo est là, Thibault Leplat est là, Jean-Baptiste Guégan, spécialiste de la géopolitique du sport.
Est-ce
Daniel,
que culturellement, ils sont pareils que les Qataris. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans leur façon de gérer le PSG, les Qataris, est-ce que c'est, tu vas me dire non forcément puisqu'on le voit, on le constate, c'est pas la même chose que ce qu'ils font les Saoudiens avec Newcastle. Et dans la différence culturelle, ce que je voulais dire, c'est cette espèce de courtisianisme, de gens autour du décideur et de rumeurs, par exemple pour le PSG en ce moment, comme à chaque intersaison où il faut savoir qui est le nouvel entraîneur, qui sont les nouveaux joueurs qui vont arriver, les informations arrivent de Doha, c'est à qui dit moi j'ai eu une info qui vient de Doha, moi j'ai une info de l'entourage de Nasser, moi j'ai une info du directeur sportif. On ne sait jamais où est réellement exercé le pouvoir. Est-ce que culturellement ils sont pareils les Saoudiens?
Ils sont d'abord beaucoup plus nombreux, le pouvoir est mieux défini et t'as pas les cercles d'influence que t'as par exemple au Qatar. Au Qatar, quand t'as un décideur, t'as 6 à 10 personnes autour qui le conseillent.
Ah, et qui parlent beaucoup. Et qui
parlent beaucoup, qui fuitent et qui donc se mettent aussi en avant. Ce qui fait que tu sais jamais où est prise la décision.
Exactement.
Par exemple, pour Newcastle, t'as pas cette difficulté-là. T'attends pas qu'une décision tombe de Riyad et que MBS se positionne. Il laisse des gens qui professionnellement sont chargés de ça. Ce qui explique aussi la réussite de Newcastle.
Pas à tort et à
comme,
travers,
comme à City, ouais. Comme à City d'ailleurs.
C'est exactement ça. Le modèle c'est plus ça.
Donc les Qataris ont vraiment une culture propre quoi de ces cercles d'influence qui noyotent, pourrissent, je sais même pas comment dire.
C'est lié au nom. Ils sont beaucoup moins nombreux aussi et puis ils sont dans une situation où ils sont plus jeunes dans leur manière de gérer ça. Le foot, ils l'ont pas utilisé de la même manière. Et on le voit, il y a une vraie culture foot hein, en Arabie Saoudite depuis très longtemps. Ça a longtemps été une place forte.
Alors, il y a un truc intéressant aussi, que tu vas peut-être confirmer, Jean-Baptiste, c'est que en Arabie Saoudite, on a des dirigeants, en fait, dans le foot, dans le sport, qui sont des jeunes, formés souvent à l'étranger. C'est-à-dire que ça, l'élite saoudienne, enfin les gens en Arabie Saoudite vont souvent se former à l'étranger, reviennent dans leur pays, et donc voilà, on a des gens qui connaissent très bien le business, le foot. Je veux dire, c'est des quarantenaires là qui sont au pouvoir et qui prennent les décisions.
Exactement,
c'est MBS a pas lui étudié.
Alors lui, c'est le seul justement à pas avoir été formé MBS, c'est le prince héritier. Il a pas été formé à l'étranger, lui, c'est un pur produit de Riyad. Par contre, les autres, effectivement, ils ont connu l'élite des universités anglo-saxonnes, et donc quand ils reviennent, ils ont quelque chose, ils apportent. Et puis quand ils ont besoin de compétences, un, ils savent les trouver, donc c'est pas le chauffeur, le gars sympathique ou le gars qu'on a croisé, genre d'anecdote.
Oui, le dernier qui a parlé, qui a raison.
Ça, au Qatar, ça peut marcher.
Ça peut marcher.
Le chauffeur qui a une promotion.
Ça peut arriver. Et en l'occurrence, là, on va chercher de la compétence. Et donc, on va aller chercher des entreprises étrangères qui vont arriver et qui vont permettre de construire ça. Là, par exemple, ce qu'on voit, c'est que le projet saoudien a flotté entre 2017 et 2019. Et à partir de 2019, ça s'est structuré. Là, aujourd'hui, pour l'instant, à part Messi qu'ils n'ont pas réussi à avoir pour des raisons évidentes.
Ouais, mais ils l'ont comme ambassadeur touriste.
Mais ils l'ont avec Saudi Tourism. Donc, il va faire venir visiter l'Arabie Saoudite. Ils ont finalement, pour l'instant, réussi. C'est là où c'est inquiétant. C'est-à-dire que on sait ce qui se passe là-bas, on sait la nature de ce régime, on sait finalement que c'est encore plus inquiétant que ce qu'on avait pu avoir au Qatar, et pourtant, ça fonctionne.
Et il ne faut pas oublier que soft power, en français, c'est l'influence culturelle. Ça veut dire influence culturelle, donc ça veut dire que quand tu es l'Arabie Saoudite, tu exerces aussi une attractivité auprès l'Arabie Saoudite, c'est la terre sainte.
C'est le pays du saint islam, oui, aussi.
Il y a aussi cette dimension-là qu'il faut prendre en compte.
Dans ton micro, Thibaut.
Oui, pardon. Cette dimension-là qu'il faut prendre en compte. Et donc, cette influence culturelle, elle s'exerce à travers le football aussi. Ce qu'on dit sur, effectivement, le développement de la population locale, mais effectivement, d'aller chercher des grands joueurs étrangers, les faire venir, c'est aussi une manière, tu as employé le terme chez nos confrères, d'influenceurs. En fait, ce sont des influenceurs plus, les footballeurs.
C'est ça.
En raison, c'est ça l'idée.
Ils viennent parler finalement en bien de l'Arabie Saoudite parce que quand vous allez recruter Benzema, vous prenez un joueur qui a encore 2 bonnes années de carrière à donner. Maintenant, c'est quelqu'un qui
va faire les photos qui va bien,
exactement,
qui va faire les vidéos qui
mais
vont
c'est
bien.
Un top 10 dans le monde en termes de followers. Mais si c'était pareil, Ronaldo, c'est la même chose. C'est le premier. C'est-à-dire que vous allez acheter quelqu'un qui a une capacité de frappe de plus de plusieurs centaines de millions de personnes.
C'est pour ça que quand tu choisis d'aller signer là-bas, il faut aussi prendre en compte cet aspect-là. T'es aussi un élément. On peut pas juste dire, oui, moi, je fais que du sport, c'est pas la politique. Là, le sport et politique sont mélangés.
C'est aussi pour ça que.
Il faut que les joueurs aussi assument cet
aspect-là. C'est aussi pour ça que les salaires sont si élevés. Voilà. C'est-à-dire que si on valorise autant.
Tu penses à ça?
J'espère qu'ils sont conseillés, parce qu'à un moment donné, il y a une vraie responsabilité aussi.
Je ne pense pas qu'ils vont faire de la politique.
Peut-être ce qu'ils disent, parce qu'ils pensent à l'oseille.
Bah oui.
Sauf que quand tu vas te retrouver là-bas et que tes pieds poings liés avec un régime qui te paye lui-même, forcément, t'es parti.
La peine de mort est une réalité en Arabie Saoudite. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que quand on y va, on sait aussi pourquoi on y va. Et ça, c'est aussi à ça que va servir le football. Ça va faire disparaître ces idées-là.
C'est passionnant, Jean-Baptiste. Merci beaucoup pour tout ça. Et bien sûr, maintenant, on va s'intéresser d'un peu plus près. Je suis fier que le championnat saoudien est diffusé par RMC Sport. Les matchs de Cristiano Ronaldo, notamment.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié.
Voilà. Donc, Laurent Salvador va nous régaler des matchs de Benzema, j'imagine, dans quelques semaines.
On aura été précurseur sur l'achat de ses droits.
Voilà.
À quoi bon acheter la Ligue 1?
Un milliard d'euros, Vincent Labrune.
Jean-Baptiste, un mot dessus.
Oui, c'est un sujet qui me fait penser. Thibaut, il y a un truc qu'on n'a pas souligné hier quand on parlait du milliard là, espéré par Vincent Labrune qui n'arrivera pas. C'est en plus, il veut l'augmentation alors que partout en Europe ça baisse, mais il veut l'augmentation l'année où il y aura moins de matchs. C'est un moins de matchs, puisqu'on va passer à 18 clubs. C'est un truc qu'on n'avait pas précisé.
Oui, mais de toute façon, c'est formidable.
T'as plus Messi. T'as plus Messi. T'auras peut-être plus Neymar.
Messi servait à vendre les droits. Enfin, il aurait pu servir à vendre les droits à l'étranger.
Mais c'est le triomphe de la pensée magique, quoi. C'est vraiment, il y a un problème dans la réalité. Bon, on change juste, on met un slogan dessus, et puis ça résout le problème. Ça, c'est la pensée magique.
Jean-Baptiste, oui, tu sors un bouquin dans quelques jours, là?
Ouais, Qatar dominé par le sport, ça sort chez Bréal. On l'a coécrit avec deux potes, hein, Mourad Bouani et puis Alexandre Denezet. Et c'est le premier livre qui revient sur la Coupe du Monde 2022 et sur toute la stratégie du Qatar depuis 20 ans. C'est simple, c'est accessible, c'est clair. Achetez-le.
Très bien, excellent. Ah si, il y a un truc que j'ai oublié quand même. Faut juste, sur le plan sportif, il y a une précision qu'il faut faire. C'est que les clubs saoudiens, à l'échelle de l'Asie, ils ont gagné, par exemple, la dernière Ligue des Champions asiatiques, entraîné par Jardim, le club de Al Hilal.
Ouais,
ça veut dire quand même que, il n'y a pas que des équipes en bois. Enfin, c'est à l'échelle de l'Asie, on verra quand ils seront confrontés à des gros clubs.
Si tu prends, par exemple, sur toute l'histoire des championnats du monde des clubs, ils sont présents 4 fois sur les 15 dernières années. Lors de la précédente édition du championnat du monde des clubs, ils sont en finale, ils perdent contre le Real. La prochaine édition, elle est organisée en Arabie Saoudite et ils seront probablement pas ridicules. Aujourd'hui, c'est capable de challenger au moins nos Ligue 1, ça, il n'y a pas de problème. Et après...
C'est meilleur que l'Inter Miami.
On va voir que le football n'est pas qu'une affaire d'acheter des grands joueurs. On le voit tous les jours au Paris Saint-Germain. Il y a quand même aussi une affaire de structure. Et en l'occurrence, il se structure aussi. Ouais. Structure aussi. Mais ça prend du temps aussi. Le jour où l'Arabie Saoudite sera capable de sortir un grand joueur comme Neymar, Messi, là, on pourra commencer à s'inquiéter. Pour l'instant, on ne voit pas émerger ça. Ça peut arriver.
Mais
pour
c'est les
on
seuls.
Pas eu un Vous savez qui a été la première idole à Riyad du nouveau football, Buffé Gomis.
Avec Jovinko, ça a commencé là, 2017, quand ils viennent les chercher.
Merci Jean-Baptiste, et on reparlera de tout ça évidemment dans les semaines qui viennent. Voilà. Dans un instant, l'Italie, l'Angleterre, au programme la Juve, Manchester, la Conference League et le reste de l'actu du jour. On se retrouve dans quelques instants dans l'After, à tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
Il est 38, Daniel Riolo est là, Thibault Leplat également. Deux petites infos là qui viennent de nous arriver. Important de vous dire que Aristoui, l'entraîneur de Nantes, prolonge. Il prolonge de 2 ans.
Le fameux adjoint qui reste.
Info de David Felipe.
Il était directeur du centre de formation.
Il va s'engager 2 ans.
Je voulais dire le fameux remplaçant qui reste. Pardon.
Donc c'est. Voilà. Des fois avec les quittés, on ne sait jamais trop ce qui peut leur passer par la tête, hein. Mais donc là, en l'occurrence,
non mais qui a apprécié Denwex, enfin c'est.
Il y avait un problème de diplôme le concernant, donc je ne sais pas là ce qui va se passer dans le détail. Bon, enfin,
c'est devenu un critère de compétence de pas avoir le diplôme maintenant en Ligue 1. Donc
alors attends, parce que cette histoire de diplôme, ça commence à poser un sérieux problème. Alors tu sais qu'ils ont augmenté l'amende, donc ils ferment toujours plus la porte à ceux qui n'auraient pas le fameux diplôme. Donc l'amende, ben Reims, ils ont
25 000 euros, je crois,
ils ont dû la payer. Donc 25 000 euros par match.
Ouais.
En national, c'est 3 000 et ça va passer à 7 000 la saison prochaine. Et c'est un problème parce que c'est toujours le même système. On bloque. D'abord, l'accès au diplôme est toujours aussi compliqué, donc on bloque l'éventualité qu'un coach soit trouvé bon. Ou qu'un président puisse lancer un jeune qu'il estime être capable de diriger une équipe, eh bien non, c'est pas possible, c'est verrouillé. Toujours la même histoire dont on a parlé mille fois, mais il n'y a rien qui se débloque. L'UNECATEF verrouille toujours autant. Il faut bien payer le salaire des gens de l'UNECATEF.
Et qui était ravi d'ailleurs.
Toujours dirigé par l'UNECATEF.
Le directeur de. Vraiment, je dirais le nom. Dont je, voilà. Qui était ravi, parce que je préfère ne pas prononcer le nom. Ça lui fait de la pub en fait. Donc, ouais. Moins on prononce son nom, mieux c'est. Mais lui, il était content parce que ça lui permettait de remplir les caisses de l'UNECATEF. Donc, tu vois, c'est dire la qualité de ça.
Tiens, dernière info saoudienne, le dernier nom qui arrive là, c'est Mahrez. L'Arabie Saoudite veut Mahrez. Voilà. Allez, on accueille et Johan Crochet et Julien Laurence. Salut les gars.
Salut Gilbert, salut à tous.
Alors avec vous, plusieurs sujets. Il faut qu'on parle de la vente de Manchester United et de l'ultimatum du Qatar.
Vite, hein, il est déjà 40.
Il faut qu'on parle du chantage de l'UEFA sur la Juve. Vous voyez que Daniel est toujours aussi optimiste sur les capacités à traiter les sujets. Et puis, il faut qu'on dise un mot de la finale de la Conference League. Mon cher Johan, pour l'instant, tu es à 0 sur 2. Tu risques de finir Fanny. Hein.
Bah ouais, mais pour
il va en finale déjà.
Pour perdre les finales, il faut se qualifier en finale en fait. Donc effectivement, pour le moment, c'est pas bon en termes de résultats. On avait un match ce soir qui avait une opposition de style très forte. Hein. On avait évidemment, ça c'était prévu, on est une équipe qui joue au football, la Fiorentina. Et puis j'ai découvert un concept, l'équipe qui joue au coup de ball. C'est-à-dire que normalement, on joue au foot avec les pieds, mais West Ham joue au foot avec les coudes.
C'est le foot anglais, mon gars. Oh.
Ah, West Ham, c'est un
représentant du foot à l'ancienne. Commence pas à faire ton
il y a 5 joueurs de Ligue 1.
C'est du foot à l'ancienne.
Avec 5 joueurs de Ligue 1.
C'est une catastrophe en termes de football. Mais après, la Fiorentina fait deux erreurs très bêtes en fait sur les buts. Tout le monde parle du dernier but, mais moi je trouve que le premier but c'est encore pire sur une longue touche, faire une main. Enfin, je trouve ça ridicule dans la surface. Tu te fais avoir sur une longue touche. J'ai du mal à comprendre, surtout qu'on sait que West Ham et les longues touches c'est un peu une force. Donc voilà, ils font des erreurs. Ça prouve qu'ils sont pas
West Ham. Et on a même vu des touches qui terminaient direct en 6 mètres. C'est dire.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ça prouve que l'équipe de la Fiorentina et son effectif est pas encore mature pour ce type de match-là, parce qu'une équipe mature ne fait pas ce type d'erreur-là. Je pense aussi à la grosse occasion de Mandragora qui ouvre trop son pied et qui est face au but et qui peut donner l'avantage à la Fiorentina. Voilà, le travail est en cours, je trouve, à la Fiorentina. L'effectif est sympa, mais il est pas dinguissime non plus. Il faudra sans doute quelques retouches sur le mercato, notamment dans le secteur offensif, au milieu de terrain, avoir au moins un vrai leader par ligne, ce qui manque aujourd'hui. Mais ça n'empêche que le parcours de la Fiorentina d'Italiano est très intéressant, que c'est encore juste aujourd'hui parce qu'ils ont perdu la finale de la Coupe d'Italie contre l'Inter et cette finale de Conference League contre West Ham. Mais dans le process qui est mis en œuvre par la Fiorentina et par son super entraîneur, je trouve que la saison est positive, même s'il y aura évidemment beaucoup d'amertume.
Et il va rester Vincent l'Italien ?
Compliqué, hein.
Il est demandé, hein.
Par beaucoup de clubs. Il y a aussi
comme l'Italiana Vero.
Il y a le Napoli. Il y a peut-être des clubs étrangers. C'est un entraîneur qui est courtisé parce que.
Oh, il doit être sur la liste de Pablo Longoria.
Ouais, possiblement. Après, Pablo Longoria, il dit que lui, le foot de possession, ça l'emmerde. Ça correspond pas trop à ce que fait Italiano. Donc, je suis un peu surpris par le profil. Puisque j'ai écouté la conférence de presse de Pablo Longoria, il voulait du jeu rapide devant. Bon, c'est pas forcément ce que fait toujours la Fiorentina.
Mais après, il dit que c'est le football moderne. Donc, après, il peut changer d'avis, ça va.
C'est ça. Mais non, c'est un super entraîneur et vraiment, il faut le suivre de près parce que, comme un De Zerbi, un Italiano, qui fait encore des erreurs aujourd'hui, mais comme De Zerbi en faisait avec Sassuolo sur certains matchs avant de quand il était en place à Sassuolo, bah, c'est des entraîneurs qui sont clairement à suivre et qui sont l'avenir de l'Italie, tout simplement.
Julien, David Moyes, qu'on a vu en transe, hein, voilà, et West Ham. Et donc, je confirme, Areola et Thilo Kehrer ont gagné une Coupe d'Europe avant le PSG.
Tout à fait, c'est vrai. Et Alphonse Areola aussi. Hein,
c'est juste
ce qu'il vient de dire.
Il y a aussi Kurt Zouma, mais lui, il n'était pas au PSG.
Ah non, il s'est coupé de ses chars ce soir, c'est pour ça.
Non, il est sur le terrain, mais il est sorti blessé. Jonathan Ikoné aussi, un ancien du PSG qui était lui avec la Fiorentina sur le banc, lui a perdu la finale. Mais ouais, pas mal d'anciens joueurs de Ligue 1. Emerson Palmieri quand même, faut le dire. Emerson Palmieri est le premier joueur dans l'histoire à donc avoir remporté la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conference League, en plus de l'Euro bien sûr et de Super Coupe d'Europe. Mais il devient donc le premier dans l'histoire. Non, mais c'est Emerson dont on parle, c'est pas non plus Roberto Carlos.
C'est un palmarès de dingo. Franchement,
c'est incroyable. Incroyable.
Comment ce gars-là peut se retrouver?
Bah, c'est un talent.
Là où je rejoins.
Être au bon endroit au bon moment.
Ah oui, ça, exactement. Lui.
Le seul endroit où il fallait pas qu'il soit, c'était à Lyon, mais à part ça, le reste, il a tout réussi, ça c'est sûr.
Moi, je suis désolé de revenir là-dessus, mais c'est quand même assez incroyable que t'as plus que la moitié d'équipe qui sort de Ligue 1 récemment.
Et on n'a pas cité Paqueta.
Qu'on n'est pas fichu d'arriver en finale.
Ça passe, elle est belle,
Paqueta. Et t'as des joueurs qui étaient tous en Ligue 1. Et on dit tout le temps, oui, les joueurs français ou les joueurs qui sont passés par la Ligue 1 sont parfaitement capables de gagner les Coupes d'Europe. Pourquoi ils le font à l'étranger, ils le font pas ici?
Ça doit s'appeler l'encadrement, le club. Ça doit s'appeler ça, Thibaut, non?
Ouais, et sur les titulaires, t'as déjà 5 titulaires plus les remplaçants. T'as au moins 7 ou 8 joueurs qui viennent, qui étaient.
Bah déjà là, regarde, si tu regardes la télé, t'as Thilo Kehrer qui sourit, alors que PSG faisait toujours la gueule, le pauvre.
Kurt Souma, Emerson Palmieri, Paqueta.
Areola,
ouais. Benrahma. Tu te dis, mais c'est la Ligue 1 en fait. C'est incroyable. Enfin, moi, ça me semble.
Là où je rejoins Johan, c'est que c'est une équipe qui devrait jouer bien mieux au football que ça, et on a été assez critique, enfin surtout moi, envers David Moyes pendant la saison, quand West Ham galérait notamment au championnat. Ils finissent 14e, mais pendant longtemps ils ont été très proches de la relégation, en tout cas des trois derniers. Aujourd'hui c'est pas un style de jeu qui fait rêver non plus. Je suis tout à fait d'accord avec Yo. Après, c'est efficace parce qu'il y a l'erreur de Biragi pour le penalty, bien sûr, et la passe magique de Paqueta et Jared Bowen qui devient le héros, lui qui est passé, juste pour raconter très rapidement, que en qui personne ne croyait quand il était jeune, aucun centre de formation, aucun club, ni en première ligue, ni en championship, lui a fait confiance quand il était plus jeune. Il a dû passer par toutes les divisions inférieures, de la 6e division jusqu'au championship, pour se faire repérer à Hull City par West Ham. Donc il a eu une carrière fantastique. Encore une fois, un joueur qui montre qu'on peut aussi y arriver, pas simplement par le chemin habituel du centre de formation, t'es très fort, tu fais tes débuts, etc., etc. Lui, il a vraiment galéré au départ. Et aujourd'hui, bah voilà, c'est lui qui remporte ce titre pour West Ham, le premier trophée depuis 1980. Et la Coupe d'Angleterre, ils n'avaient rien gagné depuis 43 ans, West Ham. Ben voilà, cette Coupe d'Europe là, maintenant, elle est à eux.
Bon, les gars, bougez pas. Dans un instant, on parle de l'autre actu chez vous, le rachat de Manchester, le chantage de l'UEFA sur la Juve. On se retrouve tout de suite dans l'after avec vous deux.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h51, ils sont là, Daniel Riolo, Thibault Leplat, Johan Crochet et Julien Laurence. Alors, rapidement, les gars, parce qu'évidemment, on n'a pas deux heures devant nous, hein, c'est comme ça, hein, toujours, mais on veut que vous nous parliez de ces sujets-là. Julien, raconte tout comment le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, donc le milliardaire qatari qui veut racheter Manchester, mais la pression au Glazer, il commence à être saoulé, le garçon, il propose des milliards et les mecs le font tourner en bourrique.
Ouais, alors déjà son offre, hein, la dernière offre qu'il a donc envoyée aujourd'hui, qui est une offre assez incroyable, parce que c'est 5,8 milliards d'euros pour les 100%, donc pour toutes les parts de Manchester United. Il n'y a pas un petit peu comme Sir Jim Ratcliffe à Nice et Ineos veulent faire, où ils pourraient prendre 60%, laisser 40% au Glazer, etc. Non, là c'est pour les 100%, pour tout le club. En plus, il promettrait d'injecter 1 milliard d'euros en plus supplémentaires. Donc on en est à 6,8 milliards pour Manchester United, qui est peut-être l'un des plus grands clubs du monde avec le Real Madrid, mais quand même c'est bien trop disproportionné par rapport à ce que le club représente aujourd'hui, quand on voit par exemple la vente de Chelsea ou même ce que pourraient valoir d'autres clubs du même standing. Donc c'est assez incroyable, 1 milliard d'euros donc injecté dans pour refaire un peu Old Trafford, le centre d'entraînement, le recrutement, bien sûr, tout ça. Il dit que son ultimatum à lui, donc maintenant c'est lui qui fait un ultimatum au club et aux Glazers, comme ça on aura tout vu, c'est vendredi. Alors je peux t'assurer que si les Glazers lui disent samedi ou dimanche ou lundi ou mardi, écoute, pas de problème, on accepte ton offre, c'est toi le nouveau propriétaire du club, il va accepter, il viendra en courant.
Pourquoi ils attendent autant les Glazers, je comprends pas en fait.
Il y a une famille.
Parce que je pense, Daniel,
ils sont pas tous d'accord.
Ouais. C'est ça, voilà. Ils sont pas tous d'accord. Donc, ils sont, 6 enfants, qui ont tous des parts égales dans le club, dont Darcy, par exemple, la seule fille, ou 5 ou 6, la seule fille qui connaît absolument rien au football, à qui ça n'intéresse pas du tout.
Au bout d'un moment, il se met autour d'une table, il décide, il vote,
c'est comme les indivisions,
plus,
c'est des indivisions, tu sais, dans les successions.
Ouais, bien sûr. Enfin, au bout d'un moment, ils font une réunion,
il dit, il a la baraque, mais j'ai 50% de la baraque, et moi, je voudrais la voiture.
C'est pas si facile, Daniel, parce que certains des enfants Glazers pensent que le club voudrait plus. Il pourrait récupérer plus qu'un milliard. Donc aujourd'hui, on va dire, ça fait 1 milliard chacun, plus ou moins. Qui pourrait avoir plus s'ils attendent encore 6 mois, 1 an. Peut-être que le club pourrait se remettre à gagner avec Ten Hag et dans ce cas-là, prendre plus de valeur encore. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est très compliqué. Moi, je pense que les Glazers n'ont jamais vraiment. Oui, complètement. Mais je pense, moi, pour moi, ils n'ont jamais vraiment voulu vendre, en fait. Ils ont testé le marché. Ils ont vu ce qu'il y avait. Peut-être que cette dernière offre, qui est quand même incroyable, va les faire changer d'avis. Mais jusque-là, j'avais pas vraiment l'impression qu'ils étaient vraiment prêts à vendre.
OK.
Bon, on se tient informé. Maintenant, la Juve, victime de chantage de la part de l'UEFA. Et c'est pour ça, Johan, que la Juve donc, veut se désengager de la Super League parce que l'UEFA a menacé de les virer des Coupes d'Europe.
Alors eux, ils disent que non. Hein. La communication officielle de la Juve, qui a eu.
Oui, mais nous, on te dit que c'est
oui,
ça.
Oui, mais que forcément, tu veux qu'ils disent quoi.
Bah oui, mais moi, je j'ai pas l'information que c'est pour ça qu'ils quittent la Super League. Ça, c'est une déduction qu'on fait, mais c'est pas une information.
Mais quel est ton avis?
Si la Juve, ce qu'elle a dit hier par communiqué et ce que le directeur général Scandavino a répété aujourd'hui, c'est que c'est deux choses qui sont totalement décorrélées. Mmh. Après, libre à nous de croire ou pas croire ce que la Juve dit.
Mon avis est que à 100% c'est exactement ce qui s'est passé, qu'on s'est servi des déboires de la Juve et au niveau national pour se dire au niveau de l'UEFA, s'ils sont sanctionnés au niveau national, il n'y a pas de raison que pour ces faits-là, à savoir trafiquer les comptes et tout, ça n'ait pas impacté l'Europe. Donc on peut très bien nous les sanctionner si on veut. Donc on va les menacer. Ça a donné lieu, Johan en avait parlé, à pas mal d'articles de presse très violents faits par la Gazzetta dello Sport, par Marca, qui sont détenus par le propriétaire, un seul et même propriétaire qui est le président du Torino, qui est très proche de Seferin. Donc oui, je pense qu'on peut déduire qu'il y a un chantage. Chantage qui est en train de se déplacer maintenant vers le Barça, puisque l'UEFA veut récupérer l'affaire c'est l'affaire, c'est ça le nom?
Casso Negreira.
Voilà. Récupérer cette affaire-là en disant ben, si nous, UEFA, on note que cette équipe a, entre guillemets, triché, même si ce n'est pas encore prouvé, eh ben, on va les menacer et on peut également les sanctionner.
C'est des rapports de force, des rapports politiques.
C'est totalement des rapports de force politiques, mais effectivement que c'est un chantage. Ce sont les méthodes qu'a choisi Seferin, sauf que la riposte, elle est claire maintenant. C'est ce qu'a dit l'association qui dirige la Super League, la A22, je crois que c'est le nom, qu'ils ont des preuves et qu'ils les ont déjà transmises au tribunal de Madrid, que c'est bien un chantage auquel on fait face et qu'ils ont des preuves de cela.
On voit mal le projet se relancer pour payer les avocats. Quoi. Je pense que le problème, c'est que le projet, il a quand même du plomb dans l'aile. Là. Donc on les voit mal le relancer juste pour une histoire de judiciaire.
Le projet existe encore.
Ouais. C'est un peu dommage de bâcler ce sujet.
Je l'avais dit.
Mais alors, ma proposition est la suivante. Parce qu'il faut aussi qu'on parle d'Allegri quand même. Et là, on n'aura pas le temps ce soir, Johan. Allegri a quand même été, au grand plaisir de Johan, maintenu à la tête de la Juve. Donc, Johan, je te propose qu'on se retrouve demain.
Bien sûr.
On approfondira cette histoire-là et on parlera aussi d'Allegri parce que ce qui se passe à la Juve est en effet assez fou. Julien, merci.
Merci les gars.
Johan, merci aussi.
Ciao, à
demain. Merci Daniel et Thibaut. On vous retrouve demain d'ici aller sur afterfoot.media pour acheter la revue de l'After, vous abonner, vous réabonner, mettre à jour vos coordonnées bancaires pour ceux qui veulent se réabonner parce que parfois ça empêche le réabonnement. Donc soyez attentifs là-dessus sur afterfoot.media où vous retrouvez l'édito hebdomadaire de qualité de Thibaut, bien sûr. Allez, à demain soir. Bye bye.
RMC, l'Afterfoot.